Salut tout le monde et bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Alors, à nouveau, si vous regardez sur YouTube, vous voyez que je suis de nouveau tout seul, mais à nouveau, rassurez-vous, vous allez retrouver les toujours excellentissimes Romain et Alexis. Donc à nouveau, on n'avait pas de disponibilité commune, mais il nous semblait impossible de ne pas vous présenter un petit numéro, pas vous proposer, pardon, un petit numéro. Qui va faire la transition finalement entre les championnats du monde et les championnats d'Europe. Vous vous doutez qu'on a beaucoup réagi entre nous pour le championnat du monde. Et on va vous livrer ici quelques impressions sur base de quelques questions ciblées. Et puis alors on partira sur une mini preview des championnats d'Europe. Et on va attaquer tout de suite avec la première question. Moi j'ai lu un peu, j'ai entendu à gauche, à droite, que ce championnat du monde, on s'est ennuyé, et notamment parce qu'il était trop dur. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez et je pense que Romain, tu vas nous donner ton avis à ce sujet.
Ah ben écoute Damien, moi justement je me suis bien plu devant ces mondiaux de Kigali, et essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que j'aime ces courses en circuit. Je trouve que ça apporte quelque chose d'assez particulier, et c'est vraiment révélateur de ces championnats du monde chaque année, ou presque en tous les cas. Ça apporte vraiment une dimension que j'aime beaucoup. Et puis l'autre raison, c'est parce que je suis belge. Je pense qu'effectivement, si on n'était ni belge, ni irlandais, ni danois, il y avait quand même peu de choses à se mettre sous la dent après le mont Kigali. C'est d'ailleurs mon principal regret finalement, c'est qu'en tant que téléspectateur, les deux dernières heures de course, on a vu quatre coureurs, quoi. Et pas d'informations sur ce qui se passait derrière, pas d'images. C'est un peu regrettable. Et ça, c'est mon bémol. Mais donc voilà, de manière globale, moi je reste quand même assez satisfait de cette course. Et j'avoue aussi qu'il y a bien évidemment la dimension Remco qui a joué, mais on y reviendra par après. Pour répondre à ta deuxième question sur la difficulté finalement du circuit, oui, je pense qu'il était effectivement très difficile. Est-ce qu'il l'était trop? Alors c'est pas moi de le dire, moi j'étais dans mon fauteuil, donc mais voilà, je suis quand même un petit peu interloqué par tous ces coureurs qui, après course à l'interview, on dit oui, c'était trop difficile. Et puis voilà, il suffit de voir le classement, 30 coureurs classés, c'est un record. Donc ça montre qu'effectivement il y avait beaucoup je dirais de facteurs qui ont rendu cette course très compliquée. C'est parti dès le départ, et d'ailleurs on n'a pas eu, contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, un peu cette échappée matinale exotique avec un Thaïlandais, un Grec, un Mongol, le gars du Vatican, qui venait un petit peu mettre l'ambiance. Ici, non, tout de suite, on a eu des, je sais pas dire, les toutes grandes nations du vélo, mais en tous les cas, on a eu, un coureur néerlandais, un Français, un Allemand, un Suisse à l'avant. Donc ça montre très bien que c'est parti très vite, très fort. Et puis, il y avait d'autres facteurs, je le disais, l'altitude, la température. La difficulté du parcours, tout simplement, font qu'effectivement, c'était très, très, très compliqué pour l'ensemble des coureurs, à l'exception donc notable de Remco Evenepoel, qui lui a trouvé ça pas trop difficile. Ok, tant mieux pour lui en tous les cas. Maintenant, voilà, bref, en résumé, un avis assez positif malgré tout sur ces mondiaux de Kigali.
Romain, comme toi, je ne me suis pas tellement déplu devant ce mondial. Alors oui, évidemment, il y a eu des temps morts, des moments où on s'est un peu ennuyé, etc. Mais globalement, déjà sur le mont Kigali, moi j'ai bien aimé de voir ce qui s'est passé à Ayuso, dans la roue de Pogacar. Si ça y est, sortez le pop-corn, les gars. Ayuso, il est parti là. Dans sa tête, ça a dû passer par. Mais en fait, je vous le dis depuis toujours, il faut construire autour de moi comme autour de Tadei. Bon, ça n'aura pas tenu longtemps, puisque qui l'aura fait péter finalement, c'est Del Toro qui est passé devant dans la hiérarchie UAE, qui revient et qui le fait sauter. Mais voilà, pareil, de voir Del Toro revenir comme une balle et puis rester à un moment donné avec. On reviendra sur Del Toro après, donc je ne vais pas plus parler du Mexicain que ça ici, mais j'ai bien aimé ce moment. Et puis, oui, il y a les ennuis de Remco. Alors à la fois, ça a mis de l'intérêt dans cette course, de voir qu'est-ce qui va se passer avec Remco. À la fois, ça a peut-être gâché l'intérêt de la course, parce que si Remco perd pas tout ce temps, on va y revenir aussi. Mais je peux déjà vous dire, très vite, sans développer, loin de moi l'idée de penser qu'il aurait pu concurrencer Pogacar, mais on aurait eu un faux suspense. Parce que honnêtement, quitte à passer pour un con, quand l'écart il est resté à 1 minute, 50 secondes, ça. Je vous avoue que j'ai eu quand même un faux suspense pendant quelques tours. Bon, après, plus on approchait de l'arrivée, évidemment, plus j'avais compris. Mais je me dis, on ne sait pas. Peut-être il peut lui arriver un petit coup de bambou, les autres sont plusieurs. Voilà, Zurich, c'était qu'un faux suspense aussi l'année passée, mais bon, on a vu qu'il pouvait perdre du temps comme ça dans un final. Donc voilà, j'y ai un peu cru, et donc avec un Remco qui aurait été beaucoup plus près, j'y aurais cru certainement encore un peu plus. Donc voilà, c'est certainement pas, pardon, les championnats du monde les plus excitants qu'on ait jamais vus. Ouais, ils m'ont pas déplu. Moi, pour revenir sur le circuit, j'aime pas le trop dur, parce que pour moi, le vélo, c'est fait de plein de choses différentes, de plein de types de circuits différents, etc. Et ça me gêne pas du tout, un circuit dur où chacun est à sa place, parce que j'ai beaucoup entendu ça comme critique. Oui, il n'y a pas de course, chacun est à sa place. Oui, et ben quoi? C'est aussi le propre parfois du sport. Je veux dire, moi, ma course préférée, alors je vais pas comparer les deux courses, hein, mais c'est le Tour des Flandres, et Tour des Flandres, c'est le plus fort qui gagne. Voilà. Alors oui, c'est pas aussi dur évidemment le Tour des Flandres. Oui, j'entends ce que tu dis avec le nombre de participants à l'arrivée. Maintenant, une course en circuit, ça va inévitablement. Je sais, ici on est un peu sur un record. Enfin, je crois pas que c'est le record, mais ça arrive rarement. Oui, bien sûr, c'est pas tout le temps comme ça. Mais par contre, des courses dures d'un jour qu'on aurait en circuit plutôt qu'en ligne. Ben, je crois qu'on serait habitué à avoir beaucoup plus d'abandons que ce qu'on voit durant l'année. Donc voilà, moi j'ai pas envie de partir sur un trop dur. Ce truc qui est un peu embêtant, c'est que on a l'impression qu'on enchaîne des parcours comme ça là pour les mondiaux à venir. C'est pas vraiment le même type de parcours, je pense, on verra, mais en tout cas toujours pour le, ben, au moins pour Pogacar et globalement pour le même type d'homme. Et surtout, on enchaîne et on y viendra plus loin dans la vidéo avec des championnats d'Europe qui sont à nouveau taillés Pogacar. Voilà, là c'est un peu embêtant. Mais qu'un championnat du monde comme ça, plic-ploc, se retrouve avec une course hyper dure à l'usure, bah, ça me dérange pas du tout en fait. Ah oui, mais j'allais oublier, sur le côté aussi, quand j'entends on s'est ennuyé aussi parce que c'était dur. Ouais, après, j'entends ce que tu dis sur le fait qu'il n'y ait pas eu des petits coureurs qui aient pris les devants. Oui, je suis d'accord. C'était dur de le faire vu le parcours, etc. Par contre, en dehors de petits coureurs, désolé, mais l'ennui, on l'a parfois aussi à cause de la tactique déplorable de certains. Et là, bah, coucou les Belges, on n'a toujours pas compris. Je ne sais pas combien de fois il va falloir pour qu'on comprenne, mais les gars, là, on sait quand même qu'on a Pogacar qui est hyper favori. Et qu'est-ce qu'on décide? Bah, on décide de rouler. On fait le travail de la Slovénie, on roule, on roule, on roule, et on va aller en duel contre Pogacar et on va se ramasser. Ben ouais, évidemment. Alors après, tu me diras, il y a pire que nous, parce que nous, on a encore un Remco, allez, qui pouvait faire illusion, peut-être qu'il pensait qu'il pouvait jouer avec. C'est déjà ridicule, mais passe encore. Bon, les Américains qui ont roulé avec nous, là, masterclass de la bêtise. Hein. Mais donc voilà, je dis pas qu'on pouvait battre Pogacar, pardon, surtout pas sur un circuit comme ça, mais il y avait sûrement moyen de faire autre chose. Je veux dire, nous, en tant qu'équipe belge, quand tu vois la force collective, jamais on doit rouler. Et on a chaque fois ce discours-là. Et on doit en mettre de partout. En fait, on doit être la France. La France n'a pas fait un feu d'artifice cette fois-ci. Mais bon, voilà, ils ont quand même pris les devants. Mais ce que la France sait faire en feu d'artifice, ben, c'est ce qu'on doit faire. Quant à Pogacar au départ, c'est ce qu'on doit faire. On n'a pas l'hyper favori. On s'est planté sur les U23, les espoirs. Moi, j'estime pas qu'on s'est planté. Parce qu'à la base, si Arnaud a les jambes, c'est lui l'hyper favori. Donc, qu'on fasse rouleau compresseur parce qu'on a l'hyper favori, pas de souci. Par contre, là, non. Malgré le chrono, ça restait quand même Pogacar le favori, donc on ne peut pas rouler comme ça. Et pour moi, ça participe à l'ennui de la course que de dire, ben, on va mettre. Il y a des mecs qui prennent les devants de certaines nations, et derrière, c'est la Slovénie qu'on devrait épuiser pour que Pogacar se retrouve tout seul. Alors oui, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais malgré tout, c'est pas à d'autres nations de rouler. Et alors là, bah, franchement, la Belgique, zéro.
Bah oui, à titre personnel, moi j'adore aussi les courses en circuit, j'adore les courses d'usure comme ça. Voilà, ce que j'aime un petit peu moins, c'est quand on connaît le vainqueur à 70 km de l'arrivée, même si c'est vrai que l'écart ne grandissait jamais de manière exponentielle, donc on aurait pu croire à un espèce de suspense. Moi, j'y ai pas trop cru. C'est peut-être aussi parce que je suis fataliste quand il s'agit de Pogacar. Donc voilà, j'aime beaucoup. Par contre, je l'aurais fait un petit peu moins dur, soit avec quelques ascensions en moins. Donc quelques tours de circuit en moins ou quelques sections plates en plus, ou alors avec le Mont Kigali qu'on aurait enlevé. Le Mont Kigali en soi, dans les faits, il a un petit peu tué la course selon moi, mais il aurait pu être super intéressant dans le sens où, comme on l'a presque eu, il aurait pu être très très bien placé pour créer différents groupes qui se seraient fait la guerre par la suite. Mais ici, dans les faits, voilà, Pogacar a eu deux personnes dans le porte-bagages, mais 10 km plus loin, il était tout seul. Donc pour moi, c'est un petit peu tué l'intérêt du circuit. Voilà, le circuit avait beaucoup moins d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand il y a un gars tout seul, que ce soit nous, les téléspectateurs ou la réalisation, on se focalise moins sur ce qui se passe derrière. Et par exemple, le groupe derrière celui Evenepoel, on l'a jamais vu. Et même pour eux, hein, pour ceux qui sont non pas 1 minute derrière les trois qui se jouent la gagne, mais plutôt 3 minutes derrière le gars tout seul qui se joue la gagne, pour eux, psychologiquement, c'est plus dur aussi de se remobiliser, de se faire la guerre pour essayer de revenir sur le groupe devant. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant que le meilleur coureur du monde, le plus fort, soit champion du monde, ça n'a rien d'anormal, au contraire. Sauf que le cyclisme, c'est quand même un sport qui offre des profils et des parcours différents. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage que pendant 4 années d'affilée, donc ici Montréal, Kigali, enfin avant en Suisse, Kigali, Montréal, et puis en France, on ait 4 parcours qui, tous les quatre, vont voir Pogacar grandissime favori. Et même avant, en soi, il faisait partie des favoris en 2023 et en 2022, sauf que le parcours était un petit peu moins compliqué. Donc il y avait d'autres types qui peuvent venir l'embêter, le battre ou le piéger. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant. Donc voilà, qu'il soit champion du monde plusieurs fois, c'est tout à fait normal, la logique est respectée, sauf que j'aimerais bien un petit peu plus de variation dans les parcours. Et de manière générale, les courses en circuit, comme je dis, j'aime beaucoup. Et comme on en a parlé avec Axel Lui, qu'il y ait plus souvent ça durant l'année pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'organisation, mais aussi pour nous, téléspectateurs, pourquoi pas, moi je suis totalement pour.
Oui, mais moi, un truc que je vais retenir, Alexis, tu dis, et je pense qu'on était tous plus ou moins d'accord, tu dis, quand on connaît le vainqueur au départ, c'était Tadej Pogacar, et pourtant, certains se posent la question de ce que ça aurait donné si Remco n'avait pas eu ces petits soucis avec la selle. Donc vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que sans ça, Remco, il aurait pu venir titiller Pogacar?
Alors c'est très difficile à dire et on ne le saura pas. Donc c'est franchement compliqué de se positionner sur cette question. Est-ce que Remco aurait pu accompagner, voire battre Pogacar à la pédale? Je sais pas. Par contre, de façon tout à fait, je veux dire entre guillemets, neutre, c'est presque bien qu'il ait eu ses ennuis mécaniques parce qu'on ne va pas se le cacher. Dans le Mont Kigali, il a fallu une accélération à Pogacar pour semer tout le monde, sauf Ayuso. On se dit, bon, voilà, on va se contenter de ce duo qui sentait la poudre hein, avec tout ce qui s'est passé chez UAE cette saison. Et puis, Del Toro revient, on se dit, ah, ça va être d'enfer. Et en fait, non, Del Toro fait péter directement Ayuso dès le mur de Kigali. Et puis, arrivé sur le circuit local, Del Toro pète à son tour. Et donc, voilà. Finalement, c'est Remco qui nous a permis de vivre encore une fin de course attrayante avec ses déboires, avec sa rage qu'on lui connaît, avec aussi sa remobilisation, ce qu'on lui connaissait moins. Mais du coup, il nous a offert une grande course, une remontada, je pense qu'on peut vraiment le dire ici dans ce cadre-là. C'est dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout, évidemment. Je pense pas que c'était possible où il en était. Je note quand même, Cocorico pour la Belgique, je note quand même que. Une fois que il a redémarré après son deuxième changement de vélo, il a été plus vite que Pogacar, puisque il était reparti avec 1 minute 40, il était avec une 28 de retard, donc il a repris 12 secondes finalement. Donc il est champion du monde sur le circuit local, on va dire ça comme ça. Allez, on se conçoit comme on peut en fait. Hein.
Ouais, champion du monde, mais déclassé du coup, puisque rentrer dans les voitures alors que normalement c'est pas autorisé. Bah, on est passé à ça du titre. Non, plus sérieusement, évidemment, ici je vais pas parler pour toi, parce que je sais très bien, tu le dis sur le ton de l'humour et tout ça. Et je pense qu'il y en a certains qui l'ont dit un peu sérieusement, cette histoire de Remco, il a repris du temps. Oui, les gars, Remco, il a repris du temps. Il a eu Quinton Hermans pour le ramener. Ils sont rentrés dans les voitures. Enfin, tout ça joue. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je l'ai un peu dit déjà dans la réponse à la première question, mais pour moi, Remco, il n'aurait pas pu rivaliser. Alors c'est vrai, ce que tu dis, on ne le saura jamais, on peut effectivement jamais être sûr de rien. Pogacar, il termine en sifflotant, il se promenait, il était en gestion tout du long. Pour moi, il était injouable. Pour moi, il y avait Pogacar dans son monde, Remco dans son monde à lui, parce que l'air de rien, il finit en solitaire avec ce que tu as rappelé, les efforts, etc. Et puis tu avais le reste, quoi. Donc voilà, mais de là à penser qu'il aurait pu rivaliser. Moi, j'ai quand même vraiment beaucoup, beaucoup de mal à y croire.
Oui, ben voilà, de ce qu'on a compris, Remco, il a dû lâcher dans le Mont Kigali à cause de crampes dues à sa selle qui aurait cassé suite à un nid de poule. Donc, est-ce qu'il aurait pu suivre dans le Mont Kigali vu sa forme, j'ai envie de dire oui, hein, parce que quand il s'est remobilisé mentalement, même si ça a pris un peu de temps, il a quand même montré qu'il était super fort. Mais est-ce qu'il aurait pu battre Pogacar sur ce circuit? Je pense quand même pas, parce que Pogacar, honnêtement, il a montré qu'il était le plus fort. Faut pas oublier qu'il était 1 contre 3, qui est rare fois où il perdait quelques secondes. C'est parce qu'il était en gestion. On a vu à l'arrivée, il était encore super frais. On l'a vu quand il accélérait, il reprenait les secondes assez facilement. Donc voilà, il était super fort. Et en plus de ça, le groupe derrière, Ilis, Quilmoz, Evenepoel, sur ce type de circuit, ce type de parcours, je pense qu'on peut difficilement avoir mieux comme trio pour revenir sur le gars devant. Donc voilà, Pogacar, rien à dire. Après, si Remco est dans la roue après le Mont Kigali, la course est peut-être différente. Peut-être que bah, c'est pas trop son genre, mais il peut un petit peu s'abriter derrière Pogacar. Et puis quand il prend les relais, bah, Pogacar, lui, a plus de mal à s'abriter derrière Remco qui est plus aérodynamique. On connaît ce petit jeu-là. Mais je pense quand même que sur la fraîcheur et sur le punch, Pogacar aurait fini par remporter le combat d'une manière ou d'une autre. Bah, toujours est-il que voilà, moi j'ai l'impression que Remco, il nous a montré, il a montré à lui-même aussi aux autres que si écart il y a avec Pogacar, et je pense qu'il y en a évidemment, l'écart est faible, il est plus faible que ce que beaucoup de gens pensent, et que voilà, s'il est en grande forme, il peut venir titiller Pogacar, et que voilà, du coup, il ne doit pas perdre espoir pour le futur. On verra déjà ici dimanche, j'espère qu'il y aura un vrai match au championnat d'Europe. Mais donc voilà, il doit continuer à s'entraîner, à essayer d'avoir des préparations complètes pour arriver sur ses objectifs le plus fort possible et pouvoir venir offrir un vrai combat à Pogacar.
En tout cas, un qui a été au niveau avant d'exploser, mais en tout cas, un qui était très très fort sur le Mont Kigali et sur le mur Kigali, c'est Isaac Del Toro. Bon, voilà, je vous demande une petite réaction sur la course d'Isaac Del Toro parce que j'ai lu pas mal de critiques. Il s'est assez fait bon, démolir, en tout cas, assez critiqué sur sa manière de courir. Voilà, j'aimerais bien votre ressenti sur la course du Mexicain.
Bah ouais, Del Toro, c'est assez énigmatique finalement ce qui s'est passé. On a vu le gars qui semblait très très fort, puisque il était peut-être un petit peu loin quand Pogacar accélère dans le Mont Kigali, mais enfin, on l'avait quand même déjà vu faire travailler ses coéquipiers, notamment le Fraire, là je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Et puis, bah, une fois le Mont Kigali franchi, c'est le seul qui a pu revenir sur Pogacar et Ayuso. Hein. Carapaz était tout près de lui, mais n'a pas réussi à faire le saut. Donc ça montre qu'il était vraiment très fort. Et puis, ben, dans le mur de Kigali, c'est lui qui fait péter Ayuso. Hein, Pogacar est un peu, enfin, semble un peu étonné. Il se retourne, il voit qu'Ayuso pète, il voit que Del Toro continue. Et donc, on voit que Pogacar doit mettre vraiment le cœur à l'ouvrage pour aller chercher Del Toro. Et puis, arrivé sur le circuit local, on se dit, on va avoir un duel épique. Ben non, très vite, on les avait discutés. Pogacar a révélé par après que Del Toro lui a expliqué ne pas être bien, avoir mal à l'estomac. Mais alors, pourquoi faire tout ça? Est-ce que il a présumé de ses forces? Il est très jeune, on le sait, c'est possible, mais il fait quand même septième à l'arrivée, donc il n'était pas au bout de son énergie ou au bout de ses forces non plus. Ou alors, est-ce que c'est un manque de jugeote tactique? Et on se rappelle, même s'il était piloté depuis la voiture du DS, on se rappelle que sur le Giro, ça avait été catastrophique sur cette dernière étape, celle du Finistère. Et donc, voilà, je me pose vraiment beaucoup de questions sur cette course de Isaac Del Toro. C'était un facteur un petit peu improbable sur cette course. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu bah, rivaliser quelque chose avec Pogacar. Parce qu'au final, il fait une très belle course, très costaud, très solide. Mais il n'a jamais, en réalité, été dans le coup pour les médailles. Sauf sur cette ascension du mur de Kigali où il a buffé tout le monde.
C'est marrant, tu trouves sa course énigmatique? Moi, je la trouve limpide, en fait. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui pensent comme toi que comme moi, mais j'arrive pas bien à comprendre le pourquoi. Del Toro, c'est quoi? C'est un coureur, peut-être derrière Pogacar, actuellement le meilleur du monde. Alors oui, il n'y a pas toute la concurrence, donc je m'emballe peut-être. Le meilleur du monde sur une certaine distance. C'est ce qu'il a été sur cette course? Le meilleur du monde avec Pogacar sur une certaine distance. Il n'a pas encore le coffre, on l'avait déjà vu sur la Classico A où il avait un peu dur. Voilà, c'est trop long, c'est trop dur, mais il va progresser, c'est comme ça. Et lui, ça l'intéressait pas non plus. Quand tu dis gros manque de tactique, de jugeote, ouais, s'il veut viser top 5 au lieu de top 7, j'exagère un peu, hein, peut-être que pour faire une médaille, il aurait dû plutôt s'économiser un peu, mais je crois que lui, bah, c'est la fougue et il veut gagner, voilà. Et s'il sort les jambes pour aller avec Pogacar, il va avec Pogacar et il se dit, bon, bah voilà, je suis bien. Honnêtement, pour moi, c'est assez limpide. Et d'ailleurs, je vais rendre hommage au très grand Alexis, notre copain de podcast, qui, dans la preview, qu'est-ce qu'il a dit sur Del Toro? Del Toro, je pense qu'on va beaucoup le voir et puis qu'après, il va exploser. Bah, Del Toro, on l'a vu et puis il a explosé. Donc en fait, oui, c'est assez limpide et Alexis, il l'avait prédit, ce truc. C'est typiquement ce qu'on pouvait attendre de Del Toro. Tout ça, même sans les problèmes d'estomac. Il paraît en plus, oui, effectivement, comme tu l'as dit, ces problèmes-là d'estomac qui peuvent rajouter des trucs. Et après, je veux pas faire le faux naïf et tout. Quand je vois certains qui disent qu'il a roulé pour Pogacar, pour moi, non, c'est pas du tout l'idée. Par contre, à partir du moment où il dit je suis pas bien et tout ça, moi, ça, pour moi, ça se passe en trois étapes. D'abord, je vais avec, je veux gagner. Puis, ouais, je suis pas bien, mais je vais passer un peu, comme ça lui aussi il me garde avec lui et peut-être ça va m'amener jusqu'à une médaille d'argent. Un peu ce que Sivakov avait déjà fait, on l'avait reproché à Sivakov. Et puis, ouais, c'est mort. Mais là alors, ça reste quand même le boss de mon équipe toute l'année, c'est mon équipier. Bah, tant qu'à faire, perdu pour perdu, je vais passer un petit relais. Bon, deux relais fatigués, hein, il n'a pas changé grand-chose dans la physionomie de la course. Ça, effectivement, c'est possible. Mais globalement, donc, pour conclure. Moi, je trouve la course de Del Toro assez lisible et pas si étonnante et pas déconnante du tout, quoi.
Eh ben, pour ma part, moi, Del Toro, j'ai pas grand-chose à redire. Dans un premier temps, hyper impressionnant dans le mont Kigali, mais surtout après, dans le mur de Kigali, où il fait totalement craquer à Uso. Donc voilà, impressionnant. Puis, par la suite, il craque. Alors, est-ce qu'il craque parce que il avait des maux d'estomac, comme Pogacar le dit, ou parce que, comme lui-même le dit, il n'avait pas la caisse? Donc voilà, il craque, en effet, on a pu s'y attendre. Mais le fait qu'il ait continué à faire des relais, moi honnêtement, je le comprends, tant sur le court terme que sur le long terme, en fait. Déjà sur le court terme, parce qu'il sait très bien que s'il n'est pas très bien et que du coup il reste dans la roue de Pogacar, ben Pogacar, il va s'agacer, il va partir. Il n'est pas bien, donc si Pogacar essaie de partir, il va pas réussir à suivre. Donc voilà, il joue un petit peu stratégie en disant, ben voilà, je te donne quelques relais, mais en contrepartie, je peux rester sur ton porte-bagages le plus longtemps possible. Et peut-être que dans sa tête, il se dit, hein, ça va aller mieux un moment, je vais m'alimenter, je vais attendre que ça passe. Et en restant avec Pogacar, je peux aller viser la médaille d'argent. Donc sur le court terme, je comprends totalement. Et sur le long terme aussi, bon, c'est un peu plus triste à dire, mais Pogacar, c'est son équipier. Donc non seulement c'est son équipier, donc cette bonne guerre de venir un petit peu aider, mais aussi Pogacar, c'est le boss de l'UAE, il ne faut pas se mentir. Donc si le met à dos, je pense que c'est pas forcément bon pour lui. Donc voilà, je sais même pas s'il a réfléchi comme ça, c'est peut-être pas forcément son style de réfléchir comme ça, mais honnêtement, que ce soit pour la course en elle-même ou stratégiquement pour sa place dans l'UAE, moi je comprends qu'il est aidé. Et puis comme dit Damien, honnêtement, c'est une aide un petit peu. Voilà, c'était pas une aide providentielle non plus, Pogacar aurait gagné avec ou sans ça.
Et d'ailleurs, on parle de Del Toro, donc un jeune qui manque un peu de coffre. Je dois faire un truc. Pardon, Polo. Paul Sexas, vraiment impressionnant. C'est une belle 13e place à l'arrivée. C'est pas un top 10, mais on va pas sous-estimer une 13e place sur un mondial aussi dur que ça. Je veux pas non plus spécialement surévaluer le truc en disant ça y est, effectivement, c'est le Craquito qui va en mettre partout et accumuler titre de champion du monde, mais c'est vraiment une superbe performance, quelque chose que j'ai pas trop vu venir vraiment. Et en plus, surtout de sa 13e place, il faut voir comment il a couru. Il a fait la course, il a fait des efforts, il a essayé des choses. Vraiment très 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 impressionné par Paul Sexas sur ce championnat. Et ça me fait penser à un truc, je vais vous poser une autre question que je n'avais pas spécialement prévue au départ. Qu'est-ce que vous pensez de l'écart de niveau de Pogacar entre le chrono et ici la course en ligne? Est-ce que l'écart déjà vous semble si énormissime? Ou bien est-ce que vous vous dites, ouais, bah, une fois il n'est pas sur son exercice de prédilection, une fois oui. Moi je vais vous répondre tout de suite, pour moi l'écart il est grand. Et je retiens ce que je viens de dire. Pourtant, il y avait un exercice de prédilection une fois et l'autre pas, mais l'écart est quand même grand. Après, c'est pas du tout le même type d'exercice et je me dis qu'il y a eu acclimatation et machin chouette. Mais voilà. Mais pourquoi je pense à ça et pourquoi je vous pose la question? Parce que je viens de parler de Paul Sexas et que ça m'a frappé que tout le monde tombe sur Pogacar pour ça et que certes c'est un niveau moindre, mais l'écart de niveau entre le chrono de Paul Sexas et sa course en ligne, on peut en parler aussi. Comme quoi. C'est pas Pogacar qui a le produit, parce que je vous en parle, parce que c'est ce que j'ai déjà lu et entendu. Pogacar a le produit où, voilà, bah, il n'est pas bien, c'est pas compliqué, il prend le produit et il est de nouveau super bien le week-end d'après. Ouais, ben, bah, quoi. C'est que ça, l'écart est le même, hein. C'est parce que c'est niveau un peu moindre et beaucoup moins voyant, mais l'écart de niveau en une semaine est exactement le même, je pense, hein.
Oui, je pense effectivement, et tu soulignes d'ailleurs Damien, qu'il ne faut pas nier le principe d'acclimatation et les différents facteurs qui ont peut-être pesé sur les organismes en début de semaine. Effectivement, ce n'est pas le seul coureur où on a pu voir une différence de niveau assez impressionnante entre ce qu'on a vu au chrono et ce qu'on a vu sur la course en ligne. Pour rester sur Pogacar, je dirais simplement ceci, on le sait. Ce qui différencie Pogacar de n'importe quel autre coureur du peloton, c'est cette faculté qu'il a à ne pas ressentir la fatigue, ou en tous les cas à donner l'impression qu'il ne ressent pas la fatigue. On l'a vu un peu grimacer en fin de course, c'est vrai, mais au moment où il passe la ligne, il est de nouveau blême, comme si finalement il venait de faire 40 km. Et donc je pense que c'est là où il y a vraiment cette différence. Il faudrait presque essayer un jour. Petit message à Remco et aux autres, pourquoi pas, d'attaquer Pogacar à l'ouverture d'une course. Quand le drapeau s'abaisse, ben voilà, attaque à ce moment-là et voir comment il réagit. Peut-être que Pogacar a besoin de se mettre dans le timing, dans le bain. Alors après, vous allez me dire, quand on regarde sur les grands tours et notamment le Tour de France, les chronos, il est top, mais c'est vrai, sur les chronos en dehors du Tour de France, en dehors des grands tours, il est nettement moins top. Et je pense que ça vient du fait que sur les grands tours, les chronos n'arrivent jamais le premier jour de course. Il y a déjà de la fatigue accumulée, et donc c'est là où très vite Pogacar commence à prendre l'ascendant sur ses rivaux. On l'a vu notamment lors du, pas le dernier, mais au Tour de France 2024, où sur le chrono de Nice, Pogacar a été virevoltant. On va me dire, ouais, mais il y avait le contre-exemple avec Vingegaard l'année avant, à Combloux. Donc, voilà, c'est pas une science exacte. Et je pense que là, Vingegaard était vraiment imbattable ce jour-là. On se rappelle quand même que Pogacar avait mis sa race à tous les autres derrière aussi. Hein, donc, voilà, ça c'est le point de vue vraiment sur Pogacar. Et effectivement, je rejoins sur Sexas. Comme tu en parlais, j'en profite aussi. Effectivement, chapeau bas à 19 ans. Enfin, 19 ans, 19 ans et 2-3 jours, hein, donc pouvoir faire un tel numéro. Et c'est vrai que je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu plus d'images de ces coureurs derrière. Parce que quand on termine, ne fût-ce que terminer une course pareille, d'une telle exigence, c'est regrettable que ces mecs ne soient pas mis un minimum à l'honneur. Enfin voilà, j'en ai déjà parlé un mot, donc je m'arrête là.
Romain, j'espère que le message est passé pour la réalisation des championnats d'Europe ce dimanche. Vous avez vu un peu la transition? Vous l'avez compris, je vous propose qu'on passe maintenant sur les championnats d'Europe. Et avant de parler des différents protagonistes, etc., ben, je vous propose qu'on parle du parcours, évidemment. Et pour ce faire, ben, c'est le spécialiste du petit plateau au niveau des chiffres et des parcours, Alexis, qui va nous parler du parcours.
Oui, le parcours, on a un parcours quand même assez compliqué qui est totalement différent de ce qu'on a vu à Kigali, déjà parce qu'il n'y a pas de pavé, puis parce qu'il y a plus de cols longs qu'à Kigali. Une côte très dure de 2 km, pardon, à refaire plusieurs fois, et puis beaucoup plus de portions toutes plates qu'à Kigali. Alors on aura 202 km, ce qui est beaucoup plus court, et 3400 mètres de dénivelé plus. C'est beaucoup moins, mais pourquoi c'est moins? Déjà parce que c'est plus court, et puis comme je dis, il y a plus de portions plates. Mais ça reste très dur par endroit, hein. Donc on commence par un petit col de 4 km à 5% qui sera idéal pour former l'échappée. Et puis une portion de 50 km toute plate où l'échappée pourra prendre le large. On pourra avoir des coups tactiques aussi. Voilà, donc ça sera intéressant à suivre. Et ensuite on arrive dans une espèce de triple-double. Donc on fait 3 fois un enchaînement très particulier. D'abord le col Saint-Romain de Herpes, 7 km à 7,2%, qui est très compliqué par certains endroits. Et puis l'horrible Val d'Enfer, 1,6 km à 9,7%, et une portion d'un kilomètre environ qui flirte avec les 12%. Voilà, ensuite on arrive dans le dernier circuit où on refait 3 fois le Val d'Enfer et 3 fois une petite bosse de 300 mètres à 7%. Donc voilà, sur papier, ça reste très compliqué. Il y a quand même de quoi établir une hiérarchie très claire, comme à Kigali. Par contre, la différence ici, c'est que chaque difficulté est séparée d'une portion plate. Parfois même pendant 10-15 km, pardon, même dans le dernier circuit, chaque fois entre les Vals d'Enfer, il y a 10 km, ce qui pourrait décourager les attaquants, les attaques trop lointaines, ce qui pourrait aussi amener certains choix tactiques, des refus de collaborer par exemple à l'avant. et ce qui pourrait amener à un groupe un petit peu plus conséquent dans le final et des coureurs éventuellement comme un Grégoire ou un Ayuso qui pourraient être encore en lice pour une belle place dans les derniers kilomètres. Donc voilà, parcours très intéressant où en soi Pogacar a clairement le terrain pour s'isoler, Vingegaard aussi, Remco aussi. Donc on a certains cols où on pourrait avoir cette hiérarchie très claire des trois plus forts comparés aux autres, mais les portions plates pourraient offrir quand même, voilà, retarder en tout cas l'échéance ou offrir à d'autres coureurs la possibilité de jouer la finale.
Oui, on le voit, un parcours, comme on disait, quand on parle de manque de variété, c'est clairement pas la même chose. Moi, ce que je retiens de toute ton analyse, enfin, je la retiens toute, mais le premier truc qui marque, c'est quand même vraiment la distance. Et là, on sait que ça peut remettre des mecs dans le jeu. Après, ça reste très compliqué. Ma première question sur ces championnats d'Europe, tu as déjà cité, avec Vingegaard et Romain Grégoire, deux mecs qui n'étaient pas aux championnats du monde. Est-ce que pour vous, ces championnats d'Europe sont en fait plus relevés que les championnats du monde?
Ah, plus relevé, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que on parle quand même, et malgré tout le respect que j'ai pour cette course, des championnats d'Europe, c'est pas la même chose que les mondiaux hein, de Kigali. La start list, effectivement, elle varie. Et peut-être que, voilà, plus relevé, je ne suis pas sûr. Par contre, peut-être, c'est vrai, un peu plus dense au niveau des candidats à la victoire, des candidats au podium. Hein, très clairement, ben, vous avez par rapport à ceux qui étaient présents à Kigali, Vingegaard, Almeida, et vu le parcours, vu l'historique finalement de ce parcours, on en parlera peut-être après si vous voulez, mais je rajouterai Grégoire aussi. Donc voilà, pour cette raison, je pense que la start list elle est plus dense, donc vraiment pour ceux qui veulent gagner, parce que on va pas se le cacher, Kigali, on l'a dit dans le petit plateau, c'était vraiment un match Pogacar contre Evenepoel. Ici, il y a d'autres gars qui peuvent vraiment venir, mais ça n'empêche pas qu'on va aussi avoir des outsiders qui étaient à Kigali qui ne seront pas ici. Hein, des Carapaz, des Bernal, des Vine, des Hindley. Après, que ceci ait montré de bonnes choses ou pas à Kigali, c'est autre chose. Ici, on parle vraiment en preview, sur base vraiment des éléments qu'on sait. À l'heure actuelle, pour moi, c'est pas plus relevé, c'est peut-être moins relevé. Par contre, c'est vrai, c'est un poil plus dense au niveau des candidats à la victoire.
Bah, tu sais quoi, Romain? Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas plus relevé qu'aux mondiaux. Certes, il y a des noms, des grands noms qui s'ajoutent. Il y a aussi des grands noms qui ne seront pas là par rapport aux mondiaux. Tu les as cités. Tu as cité les non-européens. Il y a aussi des Européens qui ne seront pas là. De ce que je vois pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que la start list n'est pas encore définitive et la sélection italienne, j'ai pas cherché très en profondeur pour voir si on avait le truc définitif, mais je vois pas de Chicone. Et bah, sur une course d'un jour avec un profil pareil, bah voilà, un Chicone par exemple, c'est quelqu'un qui pèse sur une start list. Donc moi, je suis pas convaincu que les noms qu'on va retrouver ici, qui n'étaient pas à Kigali, relèvent tellement le niveau sur une course comme ça. On en discutera plus loin, mais notez bien le sur une course comme ça.
Ben non, pour moi non plus, c'est pas forcément plus relevé, mais ce que je pourrais dire par contre, c'est que la liste des grands favoris, des très grands favoris, est peut-être un peu plus relevée, ou alors plus prestigieuse en tout cas. Pourquoi? Ben parce que ici aussi, on conserve Pogacar et Remco, et disons qu'on va remplacer un gars comme Del Toro par Vingegaard, qui est donc pour moi plus prestigieux tout de même, et on rajoute également un gars comme Almeida. Donc voilà, déjà avec ces quatre noms-là, je pense qu'on peut s'arrêter là pour dire que la start des favoris est plus prestigieuse. Mais on peut aller voir un petit peu plus loin aussi, hein, en disant qu'on conserve un gars comme Ayuso, qu'on perd Carapaz ou Hindley, mais qu'on rajoute un Grégoire, voilà, par exemple. Sinon, en termes de start list globale, non, elle n'est pas plus relevée, et en soi, on peut s'en rendre compte avec les chiffres, hein, c'est très simple. Au Mondiaux, il y avait 7 coureurs du top 20 UCI contre 5 ici, il y en avait 13 du top 50 contre 9 ici, et enfin 28 du top 100 et 18 ici. Donc voilà, en gros, pour moi, la présence de Vingegaard, voire d'Almeida, rajoute, je trouve, vraiment beaucoup quant au prestige des favoris. Mais voilà, la start list, non, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas forcément plus relevée.
Alors Alexis, tu évoques la présence de Vingegaard pour relever le niveau de la start list. Ben moi, c'était ma question suivante. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec comme Jonas Vingegaard?
Bah, je ne sais pas exactement ce qu'on doit attendre de Jonas Vingegaard. Il sort d'une Vuelta assez usée. Alors, pas tellement, j'ai l'impression, physiquement, dans la mesure où il n'a pas donné l'impression de devoir puiser dans le fond de ses réserves, hein. Il a quand même souvent paru en gestion sur cette Vuelta. Mais par contre, mentalement, on le sait, cette course a laissé des traces chez les coureurs qui ont pris part au départ. Pas tellement de par le parcours proposé ou le déroulement de la course, mais surtout par rapport à ce qui s'est passé en dehors de la course, hein, à côté finalement du circuit. Et cette peur pratiquement de voir à tout moment débouler sur la route des personnes avec des drapeaux, etc. Donc voilà, je pense que Vingegaard a été assez usé mentalement en tous les cas, physiquement certainement un petit peu aussi. Et donc c'est pour cette raison que selon moi, il ne va pas forcément arriver ici sur ce circuit avec un état de fraîcheur meilleur que ceux qui viennent de Kigali. Et donc pour cette raison, notamment, je ne le mettrai pas au-dessus des autres. Et quand je dis des autres, je vais bah, citer deux personnes. Pogacar, parce que Pogacar qui prend le départ d'une course est toujours favori de cette course, mais je vais surtout pointer Remco Evenepoel. J'en fais, allez, je mouille, j'en fais mon favori pour deux raisons. La première, c'est que bah, c'est finalement le seul maillot distinctif de championnat qui n'a pas encore accroché son palmarès. Et puis surtout, il va être revanchard. Il va être revanchard, il va vouloir cette fois-ci, s'il est épargné par les problèmes techniques, s'il ne prend pas un tir en début de. En début de circuit, il va vouloir prouver à tout le monde qu'il est du même niveau que les autres. Et donc, je vois bien Remco Evenepoel vraiment faire de ces mondiaux, faire de ce championnat d'Europe vraiment un gros objectif. Ce qui sera moins le cas, je pense, pour Pogacar. Pogacar a eu ce qu'il voulait. Il a été chercher le maillot arc-en-ciel pour la deuxième année consécutive. Est-ce qu'il va être ultra motivé au départ ici? Je suis pas certain. Après, on sait qu'un Pogacar à 90% reste plus fort que l'ensemble du peloton, y compris Remco, certainement. Mais enfin, sur ce circuit, si Remco bascule au sommet de l'Herps, en tout cas la dernière ascension hein, de l'Herps, avec Pogacar, et qu'ils arrivent sur le circuit final à deux ou avec d'autres, hein, mais qu'il est dans le bon coup avec Pogacar, eh ben, je mouille. C'est pour moi, c'est Evenepoel qui va aller chercher ça. Même si, en dehors des trois noms que je viens de citer, il y a quand même d'autres gars qu'il faudra tenir à l'œil. Je vais juste en citer deux. C'est Juan Ayuso et Romain Grégoire. Alors, pourquoi ces deux-là? Simplement parce que c'est des mecs qui connaissent bien le coin. On le sait ici, hein, la boucle finale, c'est la fin de l'Ardèche Faune Classique, sur laquelle bah, les deux coureurs ont déjà brillé. Donc, voilà, deux gars à tenir à l'œil, certainement, derrière les trois favoris. Je ne mettrai pas le Almeida dedans. Que sont donc Vingegaard, Pogacar, mais surtout Remco.
Ok, c'est osé. C'est osé, je vais réagir. Je vais bah, d'abord parler donc de Vingegaard. J'en attends rien. J'en attends rien et pas pour les mêmes raisons que toi. J'en attends rien et je l'ai déjà dit un tout petit peu dans ma première réponse. Je vous ai parlé de sur ces courses-là. Vingegaard, je n'arrive pas du tout à même le prendre en considération sur ces courses-là. Donc, toi, tu vas peut-être passer pour un fou en ayant mis Remco favori. Moi, je vais peut-être passer pour un fou en disant que je mets pas du tout Vingegaard parmi les trois favoris. Mais alors là, mais pas du tout. Si Vingegaard n'est pas top 10, je suis pas choqué du tout, en fait. Hein. Après, il pourrait l'être. C'est court, ça lui convient bien. Voilà, c'est pas encore comme un monument ou quoi. Donc, il pourrait peut-être faire illusion, mais malgré tout, j'ai pas souvenir vraiment d'un Vingegaard qui peut briller là-dessus. Ça se court pas pareil qu'un grand tour, je sais pas. Malgré plein d'éléments qui font qu'il pourrait être à prendre en considération, parce qu'il y a aussi son punch qui a progressé et tout ça, j'arrive toujours pas à m'y faire. Donc, pour moi, je n'attends strictement rien de Vingegaard. Et pour tout dire, je pense que Skelmose est plus intéressant que son compatriote. Une fois que ça c'est dit, bah, du coup, je vais réagir quand même sur les favoris, puisque tu t'es lancé et que je ne peux pas me taire. C'est bien beau d'être revanchard, mais bon, après, c'est les jambes qui parlent. Et évidemment, après, tu l'as dit dans le débrief, toi, tu n'as pas l'air de pouvoir. Enfin, tu n'écartais pas que Remco aurait pu être au niveau peut-être de Pogacar ou Kigali. Moi, j'y crois pas une seconde. Et ici, je vois pas en quoi Remco peut peut égaliser, entre guillemets, avec Pogacar. Il n'a, je suis désolé, hein, il n'a jamais vraiment été au niveau de Pogacar. On a tous attendu, même sur des Liège-Bastogne-Liège, mais Pogacar, allez, j'exagère, vous allez me sortir tous l'Amstel peut-être, mais pour moi, il y a un monde entre les deux. Voilà, il y a un monde entre les deux et je vois pas comment il peut se combler, même si je t'accorde un point sur la motivation. Je pense qu'il y en a un qui sera plus motivé que l'autre. Néanmoins, je pense que si Pogacar est au départ, il sera quand même motivé. Il n'aura pas la même motivation que Remco, le même. Mais bon, Pogacar, s'il est au départ, ce sera pour gagner, hein. Donc, bon, voilà. Peut-être que ça comble un tout petit peu l'écart, mais globalement, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Pogacar, archi favori. Mais là où je te rejoins, Remco était quand même très très fort. Et je vois pas non plus pourquoi d'un coup Remco serait pas le deuxième plus fort. Donc à moins que le voyage laisse des traces et que ceux qui n'étaient pas à Kigali vont en profiter, mais sinon je vois pas la hiérarchie. Pour moi c'est clair, c'est Pogacar, Remco et puis on verra, et sûrement pas Vingegaard. Et là je vais te rejoindre sur Ayuso. Mon troisième homme ce sera Ayuso parce que il s'est un peu fait péter. Puis il y avait des pavés aussi, ce qu'il aime pas trop. Enfin. Mais je pense que là, le parcours lui va encore mieux. Et donc, il a montré quand même une bonne forme. Et on a souvent ces débats avec Ayuso, mais on a ces débats parce que c'est un énorme crack de qui on attend beaucoup. Et ça, on doit toujours le garder à l'esprit quand même. Ayuso, c'est pas n'importe qui. Donc, sur la forme, je vois bien Ayuso peut-être être le troisième homme. Mais par contre, lui, pas spécialement dans un monde à part. Donc, il y a plusieurs candidats. J'espère que Grégoire en fait partie. J'ai un peu peur que ça soit dur. Même s'il connaît bien, oui, mais après la concurrence sera pas la même ici. Voilà, je le souhaite. Les Français de nouveau ont une belle équipe. Je suis curieux de voir comment Paul Sexas peut enchaîner. Donc voilà, je resterai sur Pogacar, Remco, Ayuso.
Hey, c'est marrant, je vais aller un peu à contre-courant, Damien. C'est assez rare qu'on soit autant en désaccord, mais tant mieux, hein, ça rajoute au débat. Et puis, comme d'habitude, moi je suis le premier à dire que je peux me tromper. Et ici, pour le coup, je vais aller assez loin dans mon avis. Donc très clairement, je peux me tromper, on verra bien. Mais moi, j'attends beaucoup de Vingegaard, en fait. J'attends énormément de lui. Ça ne veut pas dire que je le vois battre Pogacar. Ça ne veut même pas forcément dire que je le vois sur le podium, parce qu'on ne sait jamais. Je ne le vois clairement pas battre Pogacar, d'ailleurs. Tu dis qu'il a progressé en punch, mais moi je vais aller beaucoup plus loin que ça. Alors c'est moins marqué en 2025 qu'en 2024, parce qu'il est moins fort en 2025 qu'en 2024, et de très loin. Mais il n'a pas progressé son punch. C'est bien au-delà de ça. En fait, sur des courses d'usure, et alors le mot usure c'est important pour la nuance que je vais apporter après, mais sur des courses d'usure, Vingegaard c'est le seul à savoir suivre des attaques de Pogacar. Et au contraire d'avant, avant c'était plus l'ascension était longue, plus il était fort par rapport à Pogacar. Ici c'est l'inverse. Plus on est sur une petite ascension, donc comme ici il va l'enfer, plus il va réussir à suivre. Et c'est le seul à savoir le suivre. Donc pour moi, je ne suis pas loin de penser que si on le met dans les bonnes conditions, c'est le deuxième meilleur puncheur du monde. Mais de très loin en fait. Mais voilà, ici je nuance parce que je parle en effet de course d'usure et de préparation. Voilà, la préparation pour un grand tour, ce n'est pas la même que pour une course d'un jour. Je pense ici notamment à Remco qui aura infiniment plus de punch ici dimanche que sur le Tour de France. Donc si ça se trouve, il va dépasser Vingegaard en punch dimanche. Et aussi, je parle de course d'usure. On sait que Vingegaard, c'est censé être son gros point fort, c'est l'usure. Ce qui fait que peut-être il a les jambes plus fraîches, ce qui lui permet d'aller suivre les attaques de Pogacar. Ici, la course, elle est un peu différente. Déjà, c'est une course d'un jour, elle est assez courte. Et il n'y a pas des gros enchaînements. C'est-à-dire que le Val d'Enfer, on n'enchaîne pas 20 fois 100 plats entre chaque ascension. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a d'autres coureurs, en effet, qui rentrent à nouveau dans la danse en termes de punch pur. Et je pense, bien sûr, à des gars comme Ayuso et Grégoire. On l'a bien vu sur les premières étapes du Tour. Un Grégoire, il peut aussi aller suivre certaines attaques. Donc voilà, vu qu'on n'est pas sur une course d'usure, je ne vais pas dire qu'il est, comme je l'ai dit en début, je ne vais pas dire que c'est de loin le deuxième favori. Mais pour moi, en punch, mais ouais, il est extrêmement sous-coté le punch de Vingegaard. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de le voir sur ce genre de course, mais il a l'air de vouloir se montrer, il l'a dit clairement. Et ouais, en termes d'accélération en côte, il est super fort, quoi. Franchement, on le sous-cote énormément. Donc voilà, moi je le vois très clairement dans les trois favoris, ou en tout cas dans un groupe de 4-5 favoris derrière l'immense favori qui est Pogacar. Et comme je dis, grâce au nombre de kilomètres de plat entre les ascensions et le fait que ben, la course va peut-être pas vouloir, enfin les favoris vont peut-être pas vouloir se découvrir de trop loin. On a peut-être d'autres gars aussi qui rentrent dans la danse. Et alors, en Remco, ben, bah, je vais arrêter de dire que j'y crois, etc. Mais c'est vrai que j'attends encore cette course, et ça pourrait arriver dimanche, cette course où il est capable de suivre un Pogacar. Il est très fort en ce moment. Au Mondiaux, bah, je l'ai dit hein, dans les capsules précédentes, il est très bon, il a montré que. Et donc, voilà, même s'il n'arrive pas à suivre un Pogacar, c'est vrai que grâce aux kilomètres de plat, s'il a des bons alliés avec lui, ça peut toujours revenir. Donc j'y crois à lui pour un podium, maintenant pour aller battre Pogacar, franchement non, là je vois, pour être très honnête, je vois personne.
Ben, tu sais quoi, Alexis? Moi non plus, je vois personne, mais je vais faire le gars qui veut mettre un peu de suspense, c'est comme les commentateurs qui voudraient pas qu'on éteigne la télé trop vite. Donc, pour mettre un peu de suspense, je vais dire, peut-être qu'on peut pas le battre en un contre un, mais on peut peut-être le piéger. Donc, ma question est, quelle tactique adopter pour essayer de devancer le Slovène?
Bref, je vais faire court. Je suis pas sûr qu'il faut vraiment mettre en place une tactique particulière. Pour moi, il y a deux choses essentielles. La première, c'est qu'il faut mettre quelqu'un devant. Je vais m'attarder ici plutôt sur le cas de la Belgique. On l'a vu à Kigali, les Belges ont trop roulé devant. Ils ont fait le jeu de la Slovénie. Ici, il s'agira de mettre quelqu'un devant pour forcer justement la Slovénie à se découvrir, à rouler. Et quand je dis quelqu'un, je viserais même de mettre Maxime Van Gils. Il a le profil parfait pour ce genre de circuit, il connaît les routes, on peut espérer qu'il soit assez frais également. Et donc pour moi, c'est vraiment le gars qu'il faut placer devant. C'est un vainqueur potentiel dans un scénario, surprise évidemment, où l'échappée irait au bout. Et donc c'est un gars derrière qui les autres vont devoir rouler. Et puis l'autre point stratégique, bah, c'est tout simplement, il faut pouvoir basculer avec Pogacar au sommet de la troisième ascension de l'Erz. Parce qu'une fois qu'on va arriver sur le parcours final, sur le circuit final, bah, ce sera du chacun pour soi. Et là, on sait que Remco affectionne ce genre de circuit, qu'il adore les courses en circuit. Et là, franchement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que Remco a tout à fait la capacité et la hargne aujourd'hui pour pouvoir battre Pogacar sur ce circuit.
Effectivement, de toute façon, il faut prendre les devants. Aucune équipe ne peut se permettre de rouler et d'aller de nouveau au duel contre Pogacar. Il faut vraiment, pour moi, c'est même pas pour l'esseler et faire travailler la Slovénie, il faut réussir à gagner en échappée. Et donc, vous l'aurez compris, c'est ce que je disais dans ma capsule avant, c'est pour ça que je crois très peu à Remco. Mais il faut prendre l'avant, il faut prendre de l'avance. Malheureusement, pour la Belgique, ça me semble tout petit peu moins. Enfin, je sais pas si je dois dire moins costaud, mais sur une course vraiment à Kigali où il y avait de la résistance, bon, Kian, il a montré que c'était un peu juste, mais Van Wilder, malheureusement, on a vu ce qui s'est passé, mais c'était vraiment une belle pièce. Voilà, ici, je suis un peu moins convaincu. Je suis d'accord avec toi sur Van Gils, qui est très intéressant. Voilà, on a peut-être Benoît, je ne sais pas quel doit être le rôle de Benoît, mais je me demande si je ne le mettrais pas à l'avant aussi, enfin aussi, où chacun dans un timing différent, hein, entre Benoît et Van Gils. En fait, il y a l'intérêt de pouvoir gagner en échappée, et même si je crois peu qu'on peut le battre derrière en un contre un, il y a aussi l'intérêt d'être devant et espérer qu'il y ait toujours un groupe devant quand Pogacar va attaquer. Parce qu'il y a peut-être le but aussi de se dire, ok, mais du coup, je suis là pour aider Remco. Parce que si on reste avec Remco, et que Pogacar y va, et que c'est en un contre un, qui va pouvoir aider Remco après? Même s'il est un peu distancé, qui va savoir rester avec Remco pas trop loin du Slovène? Personne. Donc il faut vraiment avoir peut-être des pions à l'avant qui peuvent servir après de relais, qui peuvent éventuellement se relever si nécessaire, ou sur qui Remco peut retomber. Donc pour moi, tu dois que mettre des mecs à l'avant, soit pour que ces mecs-là puissent jouer la gagne, soit pour qu'ils puissent aider Remco, ce qu'ils ne pourront peut-être pas faire s'ils résolvent le tout. Donc en gros, on est d'accord, faut prendre les devants.
Bah ouais, pour la tactique, je vais la faire assez courte parce que je suis totalement d'accord avec vous. Il y a un immense favori. La hiérarchie est très claire, pas seulement sur cette course, mais de manière générale. Donc maintenant, ça suffit. On le laisse prendre ses responsabilités. Il le fait d'ailleurs, mais c'est juste qu'on l'aide. On va arrêter de l'aider. C'est la Slovénie qui doit rouler et nous, clairement, on doit attaquer pour mettre des gars devant. Pareil, je suis d'accord avec vous, pour gagner en échappée, même si ça, j'y crois pas forcément. Mais aussi parce que, comme voilà, je reviens une fois là-dessus, mais il y a plein de portions de plat. Pas sûr que des gens voudront collaborer avec Remco, donc il faut mettre des gars devant. pour rouler si jamais Pogacar est devant, ce qui peut totalement arriver, rien n'est à inenvisager avec lui. Donc voilà, il faut préparer le coup.
Ben les amis, on verra tout ça dimanche en fait, hein. On verra s'il y a des tactiques qui vont se mettre en place, si on aura appris de nos erreurs. On verra si Jonas Vingegaard pourra répondre présent ou pas sur une course d'un jour. On verra si Remco Evenepoel pourra effacer la frustration du mondial. Bref, on suivra cette course avec intérêt. Je vous remercie pour le temps passé pour les capsules. Et on va pas se mentir, hein, on va le dire aux auditeurs, c'était très 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 chargé pour nous cette semaine. Donc ça a été un peu compliqué. On espère que vous serez indulgents pour le format, pour les liens qui sont parfois un peu tirés par les cheveux. Bref, on a fait ce qu'on a pu. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à réagir, hein, comme à chaque fois, hein, nous donner vos ressentis peut-être sur les mondiaux et vos avis sur les championnats d'Europe qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao!